Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table Catherine, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, on parlait à l'instant des trois droites, la droite lepéniste, la droite zémourienne et la droite de gouvernement qui, comme l'a dit Gérard, effectivement on est à plus de 50% si on fait le calcul. Et vous avez dit Gérard, quelque chose d'intéressant, vous avez dit, c'est le peuple de droite.
Ça lui arrive.
C'est le peuple de droite. Et alors comme on a parlé de la gauche avant, est-ce qu'il y a encore un peuple de gauche aujourd'hui en France? Et si oui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est complètement déboussolé face à la gauche d'aujourd'hui?
Il est complètement déboussolé. D'abord, c'est Macron qui l'a fait éclater.
Donc le peuple de gauche maintenant, c'est Macron.
Ce qui est sûr, c'est que l'explosion socialiste est évidente et que depuis un an, deux ans, trois ans, ils auraient pu trouver des idées. Ils n'en ont pas trouvé.
Mais le Parti socialiste, c'est Raspoutine. C'est-à-dire, on lui tire dessus, on l'empoisonne et il revient toujours.
Il revient jusqu'au moment où, vous savez, l'histoire des partis, il revient jusqu'au moment où il ne reviendra pas.
Qu'il existe, qu'il est éparpillé, qui n'a aucune idée centrale autour de laquelle il peut se réunir, mais qu'il existe. Et simplement, Macron, effectivement, en a réuni une partie, mais qui a rétréci, manifestement. Et il voit très bien que le socle sur lequel il peut gagner, il va gagner. Enfin, parce que dans ce sondage, on oublie de dire qu'il y a un candidat qui est constant, qui est entre 24 et 27, c'est Macron. Simplement, il est obligé de faire plusieurs outings. Il l'a fait sur le nucléaire.
On va parler
mais
de
Macron. Sur le PS, juste un mot. Il est ce qu'était à un moment donné, dans sa fin, dans son déclin, le Parti radical. Le Parti radical de la Troisième République. Un parti qui finit par n'être plus que le parti d'un certain nombre de municipalités ou de conseils généraux. C'est ça le PS aujourd'hui. Oui. Vous avez pu voir aux dernières élections municipales que le PS avait gardé un grand nombre de grandes villes.
Absolument.
À commencer par Rennes. Comme tous les partis finissants, ils finissent comme ça à un moment donné, parce que des forces nouvelles arrivent, et eux, ils gardent leur beffroi, comme disait Mauroy, ou leur bastion. Et finalement, et bien regardez, même les communistes ont encore des mairies. Il n'y a plus de parti communiste en France depuis la mort de Staline, quasiment.
Mais il y aura un candidat communiste.
Il y a encore des mairies communistes, un peu ici et là. C'est pareil avec le PS. C'est un déclin historique.
Ce que veut dire Gérard, c'est que la gauche territoriale n'est pas obligatoirement une gauche de gouvernement.
Oui.
De la même manière, d'ailleurs, la droite est une droite aussi territoriale assez forte, indéniablement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va se rassembler autour d'un seul homme, d'une seule idée, pour gouverner.
Le vrai problème, on voit très bien que et le Parti socialiste d'un côté, et la gauche d'un côté et la droite de l'autre, sont divisés. Et au fond, on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'il y a une gauche, en tout cas deux gauches irréconciliables? Et maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il y a deux droites irréconciliables? Jusqu'à quand, finalement, la droite de gouvernement va trouver des limites avec quelqu'un comme Zemmour ou avec Marine Le Pen qui amoindrit son discours et qui fait de son discours un discours plus supportable pour le maximum de gens.
Il y a quand même qui est passé au-dessus, qui a réalisé l'idée bien avant lui de Zemmour en ce qui concerne les différentes droites. C'est Nicolas Sarkozy en 2007 qui a
il est arrivé à réconcilier les droites.
Aspiré un grand nombre d'électeurs du Rassemblement national qui sont revenus voter justement Nicolas Sarkozy.
Et avant lui, puisqu'on est dans l'histoire, Mitterrand, il y avait aussi en France deux familles qui étaient irréconciliables. L'une s'appelait les socialistes et l'autre les communistes. Et Mitterrand a eu l'intelligence politique ou diabolique, peu importe, comme on veut, mais il a eu l'intelligence de faire le programme commun et l'union de la gauche. C'est comme ça qu'il a gagné. Parce qu'on disait de la même manière, la gauche, elle est majoritaire dans le pays, mais elle va encore perdre face à la droite.
En même temps, il a asséché complètement le Parti communiste. Oui. Parce qu'aujourd'hui,
il y a pris le temps, mais il y est arrivé.
Il y en a un qui paye l'addition. Hein. C'est comme au resto. Hein.
Il le doit à Mitterrand.
Enfin, à partir du moment où la fin de l'URSS a aussi hâté
la chute du mur.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Zemmour.
Quand même, c'était dans l'histoire.
Peut-être, je ne sais pas s'il le sera, peut-être le sera-t-il pas du tout, mais peut être celui qui fait l'opération à droite qu'avait fait Mitterrand à gauche et qui lui a permis de gagner.
En tout cas, Michel Cotta.
Moi, j'ai été très surprise en regardant les tweets, parce qu'après tout, maintenant, les tweets, c'est notre information. J'étais très surprise par le nombre d'électeurs de Marine Le Pen qui disent c'est fini, Oui. Elle est dépassée, votre
Mais oui, mais
monde.
C'est tout le problème de Marine Le Pen.
Tout le courant des tweets était quand même dans ce sens-là. Et moi, j'ai été très frappée par ça, parce que généralement, ça s'équilibre. Et là, franchement, ça n'est pas équilibré. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, ben voilà, c'est fini, c'est trop tard.
D'ailleurs, son nouveau, père, Jean-Marie Le Pen, dit que le meilleur gagne. Oui. Donc, il s'est déjà prononcé pour...
Il a déjà dit. Absolument, au cœur même du Rassemblement National, court en quelque sorte maintenant une réflexion qu'on entend souvent, elle ne peut plus gagner.
Et donc, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Zemmour, et c'est là-dessus qu'il a, démarré, Zemmour.
Oui,
Zemmour.
Mais il y a un transfert sur Zemmour.
Et Zemmour, vous l'aurez remarqué, n'a toujours pas franchi le cap de l'investiture.
Non, il est quasi candidat, mais il n'est pas encore candidat.
Il laisse maintenant entrevoir la mi-novembre.
Il n'a pas encore les parrainages.
Oui, mais alors, est-ce que finalement, ce cap de l'investiture, c'est le fameux effet chevènement 2002, où effectivement, là, on a Hidalgo qui est investi et elle est à 4 est-ce que,
Elle était à 4 et elle a été investie.
Non, mais là, elle était à 5,5.
Non, mais la remarque de Catherine est très importante, parce que l'affaire des parrainages est une affaire difficile.
Oui, mais tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir les parrainages pour annoncer ta candidature.
De toute façon, maintenant, ça paraît très difficile. Ça paraîtrait comme une reculade incroyable s'il n'était pas candidat. À mon avis, les jeux sont quand même faits. Il a raison de profiter de ce statut béni qui est « je suis candidat sans lettre, donc je dis ce que je veux », mais le plus tard possible, peut-être. Il attendra. Mais en tout cas, c'est difficile.
Très malin. Il a trouvé un substitut très malin qui lui permet de faire campagne, c'est le livre.
Ah ben bien sûr.
Ça remplace largement les meetings.
Et en plus, c'est comme ça qu'il gagne de l'argent pour sa campagne. Il ne peut pas compter sur.
Et si jamais il est candidat, ça rentre dans ses comptes de campagne, les dividendes du livre, il me semble. Donc effectivement, ça ne sera pas le même calcul.
De toute façon, il y a une procédure judiciaire à l'heure actuelle à l'égard de Monsieur Fillon qui a employé un nègre. Mais justement sur un. On vise à travers cet emploi-là. L'emploi fictif. Donc, on va le chercher. Le parquet national financier va le chercher jusque-là.
Une nouvelle pause et on revient avec les grandes voix. Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carreau. À tout de suite.